Et voici le journal, il vous est même présenté par Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Nous évoquerons, nous aussi également dans ce journal, les mobilisations étudiantes pro-palestiniennes en France et aux États-Unis. L'ampleur n'est pas la même dans les deux pays et la violence non plus.
Nous reviendrons sur l'exfiltration agitée de Raphaël Glucksmann au défilé du 1er mai hier à Saint-Étienne. Il en a été empêché a priori par des jeunes communistes.
Et puis nous irons à Dublin où des campements de migrants fuyant le Royaume-Uni de peur d'être exilés au Rwanda sont démantelés par les autorités. Après ce journal, votre question du jour, Marguerite Caton.
L'Anthropocène est-il un concept militant ?
Réponse à 7h15. Des policiers anti-émeutes sur les campus des plus grandes universités des États-Unis, ce sont les images qui tournent en boucle sur les télés américaines ces derniers jours. Après l'évacuation par les forces de l'ordre d'un bâtiment occupé par des étudiants pro-palestiniens sur le site de Columbia à New York, après également les nombreuses gardes à vue d'étudiants de l'université du Texas à Austin, c'est le campus de UCLA, l'université de Californie à Los Angeles, qui a été le théâtre d'affrontements parfois violents, notamment après qu'un groupe de contre-manifestants pro-israéliens, en partie masqués, a attaqué un campement pro-palestinien sur une pelouse du campus. Ça s'est passé dans la nuit de mardi à mercredi. Hier, la situation s'est détendue, mais reste inflammable. Notre correspondant à Los Angeles, Loïc Piala.
La journée était plutôt tranquille, seul léger moment de tension quand des manifestants pro-israéliens ont perturbé une conférence de presse de professeurs de UCLA, solidaires des étudiants sur le campement. Mais rien de comparable aux affrontements de la nuit précédente. Tai, étudiante dans le campement installé depuis jeudi, un keffieh lui couvrant les épaules, n'a pas été surprise que son groupe soit attaqué par ce qu'elle appelle des sionistes.
Depuis le début, on reçoit des menaces de mort et de violences sexuelles. Je ne pèse mes mots, mais il y a une forme de torture psychologique. Ils diffusent à fond des sons d'enfants qui pleurent pour nous empêcher de parler et de dormir.
Stella, elle, est venue voir dans la matinée si les tentes et les barricades étaient toujours là. Elle raconte que sur le chemin, une étudiante l'a traitée de nazie en voyant son étoile de David autour du cou. Mais même si elle souhaite que la vie reprenne son cours normal sur le campus, elle ne soutient pas ce qu'elle a vu à la télévision.
Ça m'écœure. La violence n'est justifiée vis-à-vis d'aucun groupe, que je les soutienne ou pas. C'est vraiment triste parce que ça donne une fausse représentation des Juifs.
Les cours ont été annulés hier et les examens reportés par sécurité. La direction de UCLA a par ailleurs annoncé son intention de démanteler le campement rapidement. En début de soirée, les étudiants se préparaient à une intervention de la police.
Et si la Maison-Blanche a appelé au calme et condamné tout antisémitisme, Joe Biden a jusqu'ici évité de s'exprimer sur le sujet. Au contraire de son rival Donald Trump, le républicain a appelé les présidents d'université à, je cite, reconquérir les campus en traitant les manifestants de l'université de Columbia de maniaques enragés et sympathisants du Hamas. Effet ou non de contagion, en France, ce sont presque uniquement les campus de Sciences Po qui connaissent des mobilisations similaires à Saint-Étienne, Rennes, Menton ou encore Toulouse et Paris. Les forces de l'ordre sont parfois intervenues pour lever les blocages. Face à de nouvelles mobilisations annoncées aujourd'hui, la ministre déléguée à l'enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, organise ce matin une réunion en visioconférence avec l'ensemble des directeurs d'établissements universitaires. Elle entend rappeler que l'université est un bastion de la démocratie et qu'elle ne peut être instrumentalisée, selon elle. Mais Stéphane Robert, la situation française n'est pas forcément comparable à celle des États-Unis.
Il faut relativiser la mobilisation pro-palestinienne à Sciences Po, que ce soit à Paris ou ailleurs, car les blocages sont organisés par une petite minorité d'étudiants, explique Pierre Mathiot, l'ancien directeur de Sciences Po Lille.
Si on prend la totalité des 10 Sciences Po en France, ça représente même pas 30 000 étudiants sur plus de 3 millions, et que parmi ces 30 000 étudiants, c'est quelques dizaines, voire quelques centaines au grand maximum qui sont mobilisés. Donc il faut aussi rapporter ça, vous voyez, à l'effectif total des élèves en France.
Par ailleurs, ces blocages n'ont en général pas donné lieu à des affrontements avec les autres étudiants ou avec les forces de l'ordre.
Sciences Po Rennes, pour le moment, ça a été plutôt bon enfant.
Romain Pasquier est enseignant à Sciences Po à Rennes.
Comme dans toutes les générations, hein, entre 18 et 20 ans, on a des passions, on a des engagements, et ils estiment vivre cet engagement à fond en ce début du mois de mai.
Pierre Mathiot rappelle également que la mobilisation des étudiants à Sciences Po n'est pas vraiment une nouveauté.
Il faut jamais oublier oublier, par exemple, que les IEP, notamment Sciences Po Paris, avaient été très mobilisés au moment, par exemple, de la guerre d'Algérie, il ne faut pas l'oublier, au moment de la guerre du Vietnam. Voilà, donc ça n'est pas si extraordinaire que ça, ce qui se passe.
Ça peut s'expliquer, selon Romain Pasquier, notamment par le type d'enseignement qui y sont dispensés.
Ils ont des enseignements de sciences sociales et politiques, où toutes ces questions sont abordées, des grands sujets qui traversent notre société, ils sont formés à ça, ils sont formés à réfléchir. Donc, il y a un terreau favorable, évidemment.
Les deux enseignants estiment enfin, compte tenu du faible nombre d'étudiants mobilisés et parce qu'on va très prochainement entrer en période d'examen, que les mobilisations, si elles devaient reprendre, devraient toutefois rapidement s'essouffler.
Les étudiants et le conflit à Gaza, ce sera précisément le thème sur lequel vous reviendrez avec vos invités des matins, Guillaume. En attendant, retour sur les manifestations du 1er mai. Hier, elles ont donné lieu à quelques incidents en tête de cortège à Paris et puis à Saint-Étienne dans la Loire. Avant même que le cortège ne s'ébranle, des participants ont réussi à empêcher que le candidat aux européennes pour le PS, Raphaël Glucksmann, ne défile. Il a dû être exfiltré pratiquement dès son arrivée, sous les huées d'une cinquantaine de personnes, assez jeunes a priori. Dans un premier temps, le candidat de place publique a pointé du doigt la France insoumise, mais depuis, on n'en sait plus sur ses militants. Les précisions de Louise Thoman de France Bleu Saint-Étienne-Loire.
Raphaël Glucksmann reste prudent, mais il mentionne la France insoumise et Révolution permanente, disant avoir vu des drapeaux de ces deux mouvements portés par ceux qui l'ont chassé de la manifestation. Alors il y avait bien un drapeau insoumis, mais Jean-Luc Mélenchon désapprouve totalement l'expulsion du candidat socialiste. Ces méthodes ne sont pas les nôtres, renchérit la députée européenne LFI Manon Aubry. Démenti aussi de Révolution permanente, petit mouvement d'extrême gauche qui réfute même toute participation à la manifestation stéphanoise. Et malgré la condamnation de Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste, on peut regarder du côté des jeunes communistes de la Loire. Leur drapeau flottait derrière Raphaël Glucksmann, poursuivi dans les rues de Saint-Étienne, et ils se sont réjouis de son expulsion sur leur compte Instagram. JC42 1, Glucksmann 0. Même type de message posté par le mouvement étudiant Ose CGT qui entonnait des slogans hostiles à Glucksmann avant son arrivée.
Louise Thoman.
7h07 sur France Culture, la suite du journal d'Anne-Laure Chouin. Rétro-pédalage face à la réaction indignée des personnels de l'éducation nationale. Le gouvernement a décidé hier de revenir sur la réduction des heures supplémentaires dans les collèges et les lycées.
Une mesure qui était censée permettre des économies budgétaires d'ici à la fin de l'année scolaire. En début de semaine, en effet, les rectorats ont annoncé au chef d'établissement une réduction des dotations pour missions particulières, à savoir notamment les dispositifs comme devoirs faits ou de soutien scolaire, avec à la clé l'arrêt pur et simple de ces projets, ce qui avait suscité une forte émotion chez les personnels de l'éducation nationale. La France est toujours le pays le plus attractif d'Europe pour les investisseurs, et ce, pour la 5e année consécutive. C'est la conclusion du dernier baromètre annuel publié ce matin par le cabinet de conseil EY. L'Hexagone attire 21% des projets d'usines étrangères du continent en 2023, dans un contexte pourtant où le nombre de ces projets diminue. Cette diminution globale est la conséquence à la fois de la baisse des investissements américains et d'une course mondiale à l'innovation qui s'est intensifiée et où l'Europe pêche pour le moment. C'est en tout cas l'analyse de Marc Lhermitte, associé chez EY en charge de la compétitivité.
La contraction des investissements en Europe, elle s'explique d'abord par le contexte économique, les incertitudes sur la croissance, le contexte géopolitique aux portes de l'Europe, la crise énergétique qui a beaucoup pesé sur les investissements en 2023. Et puis, elle s'explique aussi par le fait que les investisseurs américains ont été beaucoup moins nombreux à faire des opérations en Europe en 2023, 15% de moins entre l'année précédente, 2022 et 2023, 30% de moins en 3 ans. Ils sont restés encouragés par les mesures fiscales mises en place par le plan Biden, ce qu'on appelle l'IRA. Ils ont été encouragés à investir dans des usines, dans des centres de recherche aux États-Unis. Il y a dans toutes les entreprises, dans tous les secteurs, une course technologique, une course à l'innovation qui est permanente, qui est celle liée à la révolution numérique, celle liée à l'intelligence artificielle, celle qui, dans certains secteurs, met une intensité beaucoup plus forte sur la recherche de nouveaux produits. On peut penser évidemment à la santé, à la pharmacie, parce qu'il y a des pathologies et donc des thérapies nouvelles chaque année. Il y a aussi tout un tas de secteurs qui sont en pleine transformation, et donc les entreprises s'adaptent à tous ces nouveaux marchés, à ces besoins de faire de la recherche pour très rapidement, en Europe et ailleurs, nous ne sommes pas seuls, faire de la recherche et monter en place des centres d'innovation.
Propos recueillis par Valentin Gris, qui signe tout à l'heure à 7h30 le décryptage écho du journal de l'écho sur l'attractivité de la France, justement. L'actualité à l'étranger avec ce dossier qui empoisonne la politique britannique, le fameux plan Rwanda, adopté la semaine dernière et qui permet aux autorités du Royaume-Uni de renvoyer au Rwanda, donc les personnes migrantes en situation irrégulière. Une menace d'expulsion qui a fait se réfugier vers l'Irlande voisine, une partie des sans-papiers qui vivaient jusque-là en Angleterre. C'est ainsi qu'à Dublin, un campement en plein centre-ville a été démantelé. 200 demandeurs d'asile qui dormaient dans des tentes depuis plusieurs mois ont été transférés hier matin vers des logements en dehors de la capitale. Une opération massive à Dublin, Clémence Pénard.
Des barrières et des policiers pour bloquer la route devant l'Office de protection internationale. C'est là, dans une tente sur le trottoir, qu'a vécu pendant près d'un an Pierre Samy, originaire de Turquie.
On est en sécurité nulle part. Nulle part on peut commencer sa vie. Le plan Rwanda est raciste. Vous m'envoyez sur un autre continent sans mon avis. Vous me forcez. Demander l'asile n'est pas un crime. En Grande-Bretagne, ils veulent faire peur aux gens et ils profitent de cette frayeur. Moi, j'ai peur maintenant du gouvernement irlandais. Ce qui s'est passé ici, c'est une décision du gouvernement.
Selon les autorités irlandaises, 90% des arrivées récentes de sans-papiers se font via la frontière avec la province britannique d'Irlande du Nord. Gary Daly est avocat et il défend l'accueil des migrants.
On s'attend à voir beaucoup plus de gens nous dire qu'ils étaient en Grande-Bretagne, mais qu'ils ont dû partir par peur d'être envoyés au Rwanda. La Haute Cour de justice en Irlande considère la Grande-Bretagne comme un pays dangereux vers lequel renvoyer les demandeurs d'asile à cause justement de ce plan Rwanda. Et ça va mettre le gouvernement irlandais dans une position très difficile.
Le Premier ministre Simon Harris veut en effet légiférer pour pouvoir renvoyer les migrants vers le Royaume-Uni. D'ici là, lui qui veut se montrer ferme face à l'immigration entend renforcer d'urgence la présence policière à la frontière avec l'Irlande du Nord.
On termine ce journal en parlant de la situation politique au Burkina Faso qui ces derniers jours a interdit à plusieurs médias étrangers d'émettre sur son territoire, la BBC, Voice of America ou tout dernièrement TV5 Monde, après avoir déjà interdit RFI, Le Monde ou encore Libération. On rappelle que Burkina est dirigé par une junte au pouvoir depuis 2022 et si les dernières interdictions sont liées à la diffusion d'une enquête de l'ONG Human Rights Watch qui mettait en cause l'armée burkinabé, accusé d'avoir commis des massacres dans le nord du pays. Les autres interdictions plus anciennes sont dans le sillage d'une politique assumée de rejet de l'Occident en général et de la France en particulier. Nathanaël Charbonnier.
L'interview a été diffusée le week-end dernier à la télévision burkinabé. 1h15 de face à face avec le président de transition Ibrahim Traoré. Dès les premières minutes, le leader de la junte rappelle que son pays a choisi dorénavant l'indépendance totale.
Nous avons décidé de prendre nos responsabilités pour engager une lutte. Il va de soi que certains qui ont perdu leurs privilèges et leurs avantages se dressent contre nous.
Concernant les médias, il estime que relayer les informations provenant de médias étrangers au Burkina, c'est d'une certaine façon pactiser avec l'ennemi.
Ces presses internationales se battent pour leur pays. Ceux-là qu'on a fermés ici, tout ce qu'ils divulguent comme information, c'est pour les intérêts de leur pays. Et ce sont ces gens aussi qu'on combat. Parce que ce sont des ennemis de la nation et c'est dangereux.
Autre inquiétude du président de transition qui imagine que la France envisage de revenir au Burkina en ayant pourquoi pas recours à la force.
Aujourd'hui, ils ont beaucoup de plans pour déstabiliser le Burkina. Ils préparent la mentalité de leur peuple au cas où ils doivent intervenir, venir physiquement ici pour qu'on combatte.
Enfin, signe que le Burkina a revu toutes ses alliances, son premier ministre rentre tout juste d'un voyage d'amitié en Iran.
Nathanaël Charbonnier. Le temps de ce jeudi en France, encore perturbé avec de nouvelles précipitations au cours de la journée sur presque tout le territoire. Les températures ce matin, 6 à 11 degrés en général. Les maximales seront comprises entre 10 et 16 degrés. C'est la fin de ce journal et la suite des Matins de Culture avec vous, Guillaume Erner.
Eh bien, merci Anne-Laure Chouin avec la question du jour de Marguerite Caton. Dans quelques secondes, l'anthropocène est-il un concept militant ?